الحمد لله بنعمته تطيم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد شيخ شيخ سور، dans la continuité de ce que nous avons commencé sur l'importance de se réformer, donc de se purifier, on avait vu que le changement n'est possible que si chaque individu décide au fond de lui-même et entreprend le changement de sa personne, de l'intérieur. لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Dieu ne changera pas l'état d'un peuple ou d'un groupe de gens si ce n'est que chaque individu change ce qu'il y a en lui-même. Et ce changement vient par la purification. On a vu également le sens de cette purification qui contient deux choses fondamentales. La première, c'est effectivement se purifier, se nettoyer, mais également aller vers l'élévation spirituelle, aller vers la perfection intérieure. Ce n'est pas seulement se nettoyer, c'est également évoluer et progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de التزكية. Et puis, nous avons vu que la première chose par laquelle il fallait commencer, c'est التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle d'unicité, on parle de pratique, n'est pas seulement le fait de le dire avec la bouche, de vivre cette unicité uniquement à travers des paroles. Il s'agit également de la vivre intérieurement. C'est pour ça que, regardez, rien que dans Surat al-Fatiha, 17 fois au minimum par jour, nous la récitons dans nos prières obligatoires. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi et toi seul, c'est toi et toi seul que nous adorons, et c'est à toi et à toi seul que nous demandons secours et aide. Donc ça doit être une pratique. Ce n'est pas seulement le dire et le répéter 17 fois, c'est le vivre au quotidien et faire en sorte que toute sa vie tourne autour de cette unicité. C'est le centre de gravité de la vie du musulman. Donc par l'unicité, puis se débarrasser aussi des attitudes et des comportements et des préjugés de ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également se débarrasser aussi des signes de l'hypocrisie. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des signes. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas ses promesses. Et il n'est pas garant du dépôt que l'on lui laisse. Ce sont des signes de l'hypocrisie à chacun d'entre nous de faire l'effort de regarder au fond de lui-même et de se débarrasser de ces maux qui vont détruire le musulman et sa communauté. Ainsi, nous avons vu également qu'il fallait remplacer ses attitudes et ses préjugés, ses comportements par la certitude et les comportements de ceux qui se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala réellement, pour les vrais croyants, par l'attitude de vrais croyants. Et ça commence par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, également, le fait de savoir que, et là j'en profite pour répondre à une question, puisque quand j'ai fait ce thème il y a 15 jours, on est venu me voir et on m'a dit, et c'est bien, il faut m'interpeller là-dessus, on m'a dit, mais une fois tu parles de nefs, quelle est la différence entre nefs, ruh, l'âme, nefs, et puis après tu vas parler de conscience. J'aimerais juste rappeler quelque chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, wa nafakhtu min ruhi, il lui a insufflé de l'âme. À son origine, l'âme c'est ruh, c'est la pureté des puretés. Et puis, quand, et c'est les savants qui nous l'expliquent, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette âme pénètre un corps humain avec ce qu'il y a, ce qu'il contient comme aspect terrestre, avec les instincts, les passions et autres, ce mélange, cette âme a perdu de sa pureté originale et est devenue nafs. Et si nous laissons ce nefs sans rien faire, eh bien, elle deviendra, et elle est, elle nefs al-amara bissou. C'est-à-dire, le nefs, l'âme, qui pousse vers le mal, vers les passions, qui nous donne, qui nous fait faire en sorte d'avoir des penchants vers ce qui est pas bon, et vers les axes des shayatines. Wal-iyadu billah. Donc ça, c'est nefs al-amara bissou. Et le prophète et le Coran nous ont appris qu'il fallait combattre cette nefs intérieure, ce jihad, nefs, mujahadat nefs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-mujahid man jahada hawa. Le mujahid, c'est celui qui combat ses passions intérieures, ses penchants bestiales, ses instincts qui penchent vers tout ce qu'il y a de mauvais. Donc ça, c'est la première étape. On fait un jihad nafs jusqu'à ce qu'on atteint le degré de nafs al-lawama, c'est-à-dire cette âme qui blâme. Ainsi, avec cette âme, on peut commettre des erreurs et des péchés, mais elle nous blâme. Et c'est là où je l'ai appelé un peu conscience, parce que dans notre terminologie ici, souvent on dit la conscience, ah ma conscience, elle m'indique cela, j'ai un problème avec ma conscience, etc. Donc c'est là où cette âme, justement, quand tu commets une erreur, quand tu t'éloignes de Dieu, elle te blâme. Mais c'est uniquement par le djihad, mujahadat nafs, pas autrement. Et puis ensuite, on continue à faire ce djihad nafs jusqu'à atteindre an-nafs al-mutma'inna. Et ça, c'est le summum, c'est l'objectif ultime. L'âme apaisée. À propos de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allah subhanahu wa ta'ala dit, après ce jihad nafs constant, continuel, on atteint ce degré de l'âme apaisée, et il dit, et il appelle par son plus beau nom, ô toi âme apaisée, ô toi l'âme qui a acquis la quiétude, Trouli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs privilégiés, entre dans mon paradis que j'ai réservé à ces gens-là, et reste-y éternellement. Voilà le jihad nafs qu'il faut accomplir au quotidien. Et l'imam al-Ghazali, rahimahullah, a dit que ce n'est pas simple. Très difficile, jihad nafs. Vous savez pourquoi ? Il a dit pour deux raisons. La première, c'est que c'est comme un ennemi. Et cet ennemi, qui est notre nafs, nous l'aimons puisque c'est nous-mêmes. Donc quelle difficulté que d'affronter un ennemi que l'on aime. Quand on l'ennemi, tu le détestes, c'est plus simple. Tu es aux aguets, tu fais attention, tu es sur tes gardes. Mais quand c'est un ennemi que tu aimes, là ça devient un vrai problème. Et c'est le cas de notre nafs. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile, il dit, tu peux te préserver par exemple d'un voleur extérieur qui vient, tu fermes ta porte, tu verrouilles, tu mets une alarme, tu mets tout ce que tu veux, et tu peux empêcher le voleur de rentrer. Mais quand le voleur est en toi, quand il vit avec toi, quand il se réveille avec toi et qu'il dort avec toi, quand il connaît le moindre de tes secrets, de tes failles, de tes limites, alors là, ça devient très difficile. Et on doit être encore plus aux aguets et plus sur nos gardes que jamais. Que le pire de nos ennemis, an-nafs. Et donc, toujours dans le sens de nous aider à combattre ce nafs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous a indiqué 4 étapes très importante à franchir. La première, c'est qu'il faut apprendre. C'est par l'apprentissage. Hein? Il faut apprendre à son nafs qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et l'éduquer. Et ça passe par une pratique et un entraînement. Exactement comme le corps a besoin d'exercice, l'âme a besoin également d'exercice intérieur et spirituel. Et donc, commencer par lui apprendre sa religion, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit des gens qui passent leur temps à faire énormément de choses, sauf à apprendre eux et à lire et apprendre leur religion. On est la communauté à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra, lis, apprends. Acquiert ces clés qui vont t'ouvrir toutes les fenêtres, tous les horizons, et nous, malheureusement, on fait complètement le contraire. La communauté de Iqra est devenue celle qui ne lit pas et qui. Alors que ça ne nous dérange pas de rester des heures devant la télévision à regarder je ne sais quoi, à écouter je ne sais quelle émission ou musique. Il faut que l'on revienne et que l'on apprenne notre religion. C'est là, c'est incontournable. Chacun en fonction de ses capacités, bien sûr, mais c'est incontournable. Si tu n'apprends pas, tu vas forcément tomber à un moment donné dans l'ignorance. Et c'est pour ça que Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, le vrai, celui qui va agir dans le bien, c'est celui qui va apprendre et agir en toute connaissance de cause. Car si tu n'apprends pas, tu vas être un adorateur à un moment ignorant. Et il a dit que celui qui adore Dieu sans apprendre est plus en proie à l'erreur et à la corruption, entre guillemets corruption, que celui qui se lance dans l'acte d'adoration en apprenant, en sachant ce qu'il pratique. Donc on voit qu'ici, on a besoin de lire et d'apprendre notre religion. C'est là la première étape de jihad al-nafs. Et puis, la deuxième étape, nous dit Ibn al-Qayyim, c'est de pratiquer ce que tu as appris. Car ce que tu apprends en islam, l'apprentissage, la science, l'ilm, c'est pas pour jouir intellectuellement et de se dire, se sentir bien parce que on a appris beaucoup de choses. La science en islam est là pour être pratiquée, pour être mise en pratique, pour corriger notre pratique, pour être toujours dans le vrai, dans ce qui est authentique. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons dans ce sens. Toujours. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous connaissez le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, même le Coran, on l'apprenait par cœur, on apprenait 10 versets. D'abord 10 versets. On les comprenait, on les étudiait, on les mettait en pratique. Ensuite, on passait aux 10 versets suivants. Et ainsi de suite. Et ils ont appris pour la plupart le Coran par cœur de cette façon. La troisième étape dont nous parle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est d'apprendre et de transmettre aux autres ce que tu sais et ce que tu as appris et ce que tu as mis en pratique. Ne soyons pas des égoïstes. Transmettons. Et c'est même un ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Qui, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui est meilleur que celui qui a qui a appelé vers Dieu et qui a accompli des bonnes œuvres, et il a dit avec fierté, je fais partie des musulmans, de ceux qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili, ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, le prophète donc dit au prophète, ya Muhammad, dis-leur, ça c'est mon chemin. J'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala en toute clairvoyance. Moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui me suivront. Donc transmettons, en fonction de nos capacités bien sûr, en fonction de nos connaissances et de nos pratiques, mais transmettons à nos familles, à nos épouses, à nos enfants, à notre entourage, ce que nous apprenons et ce que nous mettrons en pratique. Et enfin, la quatrième étape, c'est d'éduquer nefs à être patiente devant les épreuves. Car ceux qui pensent que parce qu'ils vont se mettre sur le droit chemin et qu'ils vont être débarrassés de tout problème, ceux-là se trompent lourdement. Je dirais même que c'est tout le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Am hasibtum an tadkhulu al-janna wa lamma i'atikum mithla alladhina khallu min qablikum masathum al-ba'sa wa dharra wa zulzilu » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Am hasibtum » Est-ce que vous croyez que vous allez entrer au paradis et il ne va pas vous venir comme ceux avant vous? Ils ont été éprouvés, ils ont été en difficulté et wazulzilu, c'est un terme fort, ils ont tremblé. Hatta yaqulu ar-rasul, jusqu'à ce que le prophète parmi eux dise mata nasrullah, mais quand viendra le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement ils ont été éprouvés. Ala inna nasrullahi qarib. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le secours de Dieu est proche. Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Ainsi, ceux qui pensent que le chemin est couvert de pétales de roses, d'odeurs agréables, se trompent. Mais il est semé d'embûches, d'épines. Et c'est ça, le droit chemin. Car le paradis est entouré de tentations, d'épreuves. Alors que l'enfer est entouré de choses qui paraissent agréables, bonnes. Donc allons vers le chemin plein d'épines, mais le paradis se paye par le prix fort. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn al-Qayyim qui avait retracé la vie de tous les prophètes. Il a dit, Ajib, tous les prophètes sont passés par là. De Adam, alayhi salam, jusqu'à Nuh qui a appelé son peuple pendant plus de 900 ans, qui a été éprouvé, insulté, 900 ans d'appel, 900 ans de da'wah. Il dit, Ibrahim a été jeté dans le feu pour sa religion. Ismaël a été menacé d'être égorgé. Jean, où Yahya alayhi salam a été décapité, Isa a été éprouvé et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné et sa vie plusieurs fois a été menacée. Les compagnons, pour la plupart, ont été massacrés, tués, assassinés. Et voilà le chemin vers le paradis que nous a montré le Coran. Donc, apprendre, éduquer son nafs à être patient devant les épreuves et les actes difficiles, c'est là le prix du paradis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala a acheté aux croyants, des croyants, leur propre nafs, eux-mêmes. Ils se sont vendus à Allah subhanahu wa ta'ala et leurs biens également. Et ils auront le paradis. Donc le paradis a un prix fort qu'il faut payer. Et inshallah, on continuera de parler de Tazkiyat Nafs dans les khutab à venir, inshallah ta'ala. J'ai juste quelques informations à vous transmettre. La première, c'est que le 24 novembre, nous avons la visite de la mosquée de Maubeuge qui va venir demander votre aide. Et puis, le samedi 25 novembre, nous avons, n'oubliez pas, la visite du Cheikh Zakaria, hafizahullah. Et juste après, la prière, inshallah, du Jumu'ah, on priera l'Asr. Donc, ceux qui veulent prier l'Asr avec nous sont priés de rester, inshallah, dans la mosquée pour prier l'Asr avec nous, inshallah. اللهم لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد اللهم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أتي نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أمتنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرته يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.